Audiolib présente Graciella Bête de Gabriel Massa. Lue par Victorien Robert. À Sacha, à Adrien, évidemment. Et je ne parle pas de pardon. Ta foi, ta rage, ta souffrance ne sont pas encore terminées. C'est la cruelle bête que tu nourris. C'est ton besoin brûlant, ardent, de saigner. Ghost, Spillways. Alors que je roulais vers une mort certaine, sans savoir cependant celle de qui ou de quoi, je pensais à mes parents. La nuit où j'avais compris qu'ils m'aimaient ressemblait à celle-ci. Un instantané de colère drapé dans un ciel de poèmes baudelairiens. Le vent du nord cinglait les branches nues des arbres et des torrents de pluie battaient la route dans un vacarme à rendre fou. J'avais à peu près l'âge d'Audrey, 14 ans. Adolescent, j'étais la pire des plaies. Tout dans notre hameau de l'Aubrac m'emmerdait. Je détestais la neige, les vaches, le silence, faire une heure de bus pour aller au collège, le potager plein de choux et de navets la moitié de l'année, mes petites sœurs qui adoraient tout ça, et mes parents qui l'avaient choisi avec pour probable dessein de me faire trépasser d'ennui. J'employais toute mon énergie à le faire savoir, en particulier à notre voisin, un vieux garçon crasseux et gueulard dont j'avais fait ma némésis. Je lui devais mon premier amour, Leslie, sa setter irlandaise, et mon premier déchirement, il lui avait logé une balle dans la tête parce qu'elle était épileptique, ma première branlée, en représailles j'avais tenté d'incendier sa grange, ma première gueule de bois, j'étais fortuitement tombé sur sa réserve de gnôle à 12 ans et demi, et même d'une certaine manière, mon dépucelage, avec une copine de lycée, à qui le charme ancien de la grange finalement intacte avait donné des idées. Cette nuit d'apocalypse, donc, j'avais piqué sa voiture. Comme ça, sans raison particulière. Et je l'avais envoyé dans un être 3 kilomètres plus loin. Je me souviens d'avoir titubé hors de l'habitacle et de m'être effondré en voyant ce qu'il en restait. La tôle pliée formait un accordéon grotesque. J'avais mal au cervical. Du sang me coulait dans les yeux et mon poignet droit, celui qui avait échoué à rétrograder en seconde pour aborder le virage, ne répondait plus. Sous un déluge glacial, je m'étais assis face au cadavre mécanique, de l'autre côté de la route, et je m'étais mis à sangloter. J'avais peur. Peur de ce qu'il venait de se passer et de ce qui arriverait ensuite. J'ignore combien de temps j'avais attendu là. Quand le pinceau des phares de la voiture de ma mère m'avait aveuglé, j'étais trempé jusqu'à l'os. Ma mère, un reliquat de l'époque New Age, toujours vêtue d'un pull bariolé si grand qu'il semblait sur le point de l'engloutir. Elle vendait du pesto d'ail des ours et des tisanes sur les marchés, et m'avait transmis sa myopie terminale, ses épaules de catcheuse et sa regrettable opiniâtreté. Elle m'avait détaillé un long moment, insensible à la pluie, puis m'avait demandé si je pouvais marcher. J'avais dit oui. Elle m'avait fait asseoir côté passager, et nous étions revenus au hameau sans rien dire. Au lieu de tourner chez nous, elle avait poussé jusqu'à la ferme du voisin et coupé le contact devant sa porte. « Je t'attends là », avait-elle dit. Les larmes m'étaient montées aux yeux. De ma brève discussion avec le voisin, je ne me rappelle que la terreur et la honte. La douleur pulsa-t-il dans ma nuque, et ma mère sortant de la voiture pour venir compléter mes excuses. Après ça, nous étions rentrés. Mon père nous attendait dans la cuisine, face à notre vieux téléphone à cadran et à la liste de tous les dispensaires, commissariats et connaissances à 50 kilomètres à la ronde.